On va tout de suite passer à, je l'avais dit au début, hein, à la réunion de l'Observatoire de l'enfermement des étrangers qui s'est tenue le 12 décembre dernier, à la Ligue, au siège de la Ligue des droits de l'homme. Et on va tout de suite écouter, donc c'était une analyse hein, du nouveau CESEDA, du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d'asile, qui était présenté, qui a été vu et modifié à l'Assemblée nationale, qui est repassé par le Sénat et qui revient maintenant après le Sénat à l'Assemblée nationale. Et voilà ce qu'on en dit. Donc tout de suite, on va écouter David Rohi qui nous en parle. Hein, ce sera en introduction. Voilà, c'est David Rohi qu'on entend. C'était donc
Bonsoir.
lundi.
Bienvenue à cette soirée organisée par l'Observatoire de l'enfermement des étrangers et consacrée à l'analyse des aspects enfermement, éloignement, expulsion du projet de loi sur le droit des étrangers. Ce projet de loi, c'est un projet de loi qui, on a souhaité organiser cette soirée. Parce que c'est un projet de loi qui, en fait, en est aujourd'hui, après une première lecture à l'Assemblée, puis son examen par le Sénat. On a eu l'échec d'une commission mixte paritaire. Et pour aller vite, c'est un projet de loi qui va revenir devant l'Assemblée nationale, pour une étape qui sera décisive, pour ce qui va être, au final, sans doute au mois de janvier. Le calendrier parlementaire, il n'est pas encore inscrit à l'agenda, mais on est dans ces eaux-là, dans ces délais-là. Donc, comme je le disais, étant donné l'objet de l'Observatoire de l'enfermement des étrangers, on vous propose ce soir une présentation, une analyse de ce projet de loi, et puis ensuite un temps de débat, qui va être axé, en fait, sur le volet enfermement, les questions enfin, enfermement et connexes. On commencera avec une intervention de Patrick Henriot qui va nous présenter le dispositif de l'assignation à résidence pour ensuite, qui est donc membre de l'OE et représentant du syndicat de la magistrature. On poursuivra ensuite avec une intervention de Bruno Vinet qui représente l'association de défense
Avocat pour la
défense
des
droits des étrangers, pardon, l'ADDE, qui nous parlera de la question des mesures d'éloignement, enfin de l'obligation de quitter le territoire, de la réduction des possibilités d'accès aux juges et des problèmes de recours que le projet de loi risque d'instaurer. Ensuite, Patrick Henriot reprendra la parole pour nous parler de la question de l'enfermement des mineurs. Et c'est Clémence Richard pour la CIMADE, également membre de l'OE, comme tous, qui nous parlera de la systématisation des mesures de bannissement. Voilà. Avant ces interventions, je vais un petit peu introduire le propos en prenant un petit peu peut-être de recul sur ce projet de loi. Simplement pour bien bien souligner qu'il faut comprendre ce projet de loi comme un élément du plan du gouvernement vis-à-vis des personnes étrangères, en particulier sur le volet enfermement-éloignement. Un élément parce qu'en fait, c'est un plan gouvernemental qui est déjà largement en action, qui est déjà largement développé et qui vise, selon l'analyse de nos organisations, pour une part essentielle, en tout cas de ce plan, à expulser davantage de personnes, à les mettre davantage sous contrôle et avant leur expulsion potentielle, ceci dans de nouveaux lieux et avec de nouvelles méthodes. Donc finalement, je vais expliquer un peu ce que j'entends par là et ce qu'on constate sur le terrain, hein, nos différentes organisations. Mais finalement, il faut comprendre que le projet de loi, il va donc venir s'inscrire dans cette dynamique déjà à l'œuvre et simplement, doter les préfets d'outils supplémentaires, essentiellement coercitifs, hein, très peu sur le plan du renfort des droits de ces personnes, pour donc développer la politique qui est déjà engagée. Donc ce plan gouvernemental, il vise à la mise sous contrôle des étrangers qui sont considérés comme expulsables. Parmi ces personnes étrangères, on peut souligner, pas seulement, mais que sont particulièrement visées les familles et les candidats à l'asile, les déboutés du droit d'asile, mais pas seulement, parce qu'on a déjà une partie des personnes demandeuses d'asile qui peuvent être sous le régime d'une convocation Dublin parce qu'elles peuvent éventuellement être renvoyées vers un autre pays européen, qui peuvent être sous le coup déjà d'une assignation à résidence, donc tenue de rester à un domicile, de pointer à la police, etc. Ça a été introduit par la loi Asile cet été, par une loi qui réforme le droit d'asile. Donc on a déjà cette catégorie de personnes qui est mise sous contrôle alors qu'elle ne l'était pas auparavant. Et puis on a, je prendrai un peu comme point de départ, une circulaire du 22 juillet 2015, qui n'est pas le début de cette politique, mais qui a quand même fortement accéléré. Une circulaire qui finalement va instaurer des centres d'aide au retour, c'est comme ça que c'est qualifié, et un dispositif qui vise à augmenter les contrôles et la pression sur les personnes identifiées comme devant quitter le territoire. Alors la méthode, en fait, c'est le préfet qui pilote. Le préfet et l'Office français d'immigration et de l'intégration ont pour mission d'identifier les personnes en situation irrégulière dans le département et qui sont potentiellement expulsables, de les convoquer en préfecture pour un entretien avec l'OFI qui leur propose une aide au retour et un départ volontaire, puis ensuite viennent différents stades, l'assignation à résidence de ces personnes dans un lieu d'hébergement, avec un opérateur qui, dès le départ, fait partie de ce que le préfet met en place et pilote, un opérateur qui propose un hébergement et qui est prêt à mettre en place cet hébergement sous contrôle. Donc tout au long des démarches, finalement, le but de l'administration, ça va être de mettre la pression pour obtenir des éléments qui vont favoriser la délivrance d'un laissez-passer, qui vont permettre à la préfecture d'identifier les personnes et, in fine, de pouvoir exécuter leur éloignement. Alors pour l'instant, dans ce contexte-là, on verra qu'il y a certaines limites qui peuvent être allègrement franchies, mais par exemple le fait de pouvoir interpeller ou pas à domicile, que le projet de loi va venir bouger. On y reviendra tout à l'heure. Ce qu'on peut noter, alors je vais un petit peu vite sur le dispositif, mais ce qu'on peut noter, c'est que ces méthodes, finalement, elles sont appliquées à des lieux d'assignation qui sont très divers, qui peuvent aussi bien être des hôtels, des campings, un hôpital désaffecté, des foyers tenus par des opérateurs qui sont tout à fait complaisants avec ce type de méthode, et que c'est un dispositif qui, par ailleurs, marche non pas en substitution complète des centres de rétention où sont enfermées les personnes qui sont visées par une mesure d'éloignement, mais en complément, puisqu'on voit bien que les personnes peuvent être à un moment assignées à résidence, puis placées en rétention. Cette même circulaire du 22 juillet 2015, d'ailleurs, elle demande au préfet d'utiliser davantage la rétention, de remplir les centres de rétention dont le taux d'occupation serait insuffisant. Et on a vu récemment que finalement, la rétention elle-même devient un lieu de contrôle relativement qui sort, disons, de sa vocation première et qui va presque se rapprocher de ces lieux d'hébergement sur lesquels le ministère de l'Intérieur, via les préfectures, est en train de mettre la main pour contrôler les personnes étrangères. Puisque la rétention a été utilisée, vous en avez peut-être entendu récemment, par exemple, pour vider le bidonville de Calais, ou tenter de vider le bidonville de Calais, puisqu'on a, depuis le 21 octobre, plus de 1100 personnes qui ont été amenées de force dans des centres de rétention sous le prétexte d'une expulsion qui n'est qu'un prétexte, puisqu'elle n'est jamais exécutée, hein, quasiment, ou pour quelques pays européens rarement. Mais le but est bien de vider une part du bidonville de Calais. Donc on a finalement la rétention qui fonctionne en complément de ces lieux d'hébergement où les personnes sont sous contrôle, assignées à résidence, on y reviendra dans ce que ça signifie, et une rétention détournée de son objet, qui devient un instrument de contrôle supplémentaire, et dont la finalité n'est pas seulement d'expulser, mais aussi éventuellement de désengorger un bidonville ou d'évacuer un campement. Voilà. On a dans l'ensemble de ces phénomènes de contrôle quelque chose qui est quand même relativement nouveau. Je dirais que c'est la question de la mainmise du ministère de l'Intérieur sur le domaine de l'hébergement des personnes étrangères, éventuellement expulsables un jour. Alors c'est pas complètement nouveau, hein. On avait déjà des formes de pression existantes pour, par exemple, des demandeurs d'asile dans des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, des CADA, où les opérateurs ou les associations qui tiennent ces lieux avaient une certaine pression de mise pour que les personnes sortent de cet hébergement, voire pour des interpellations de demandeurs d'asile déboutés. Mais là, on a réellement une multiplication comme ça d'exemples et de dispositifs où le ministère de l'Intérieur, via les préfectures, organise le contrôle des personnes étrangères dans le domaine de l'hébergement et de l'hébergement d'urgence. D'ailleurs, cette circulaire du 22 juillet 2015 traduit tout à fait cette mainmise-là, puisqu'elle est co-signée par le ministère de l'Intérieur et le ministère du Logement. On a vraiment une double tutelle, et dans cette double tutelle, on sent bien que c'est l'Intérieur qui organise, qui décide beaucoup, beaucoup des choses. Dans ce même dispositif, on peut citer également les fameux centres de répit, où sont amenés également des exilés de Calais, hein, qui ont été institués aussi par cette circulaire du 22 juillet 2015, et précisés dans une lettre interministérielle du 9 novembre 2015, centre de répit où, certes, une partie des personnes de Calais en grande précarité, en difficulté, trouvent à se reposer peut-être quelque part, mais où aussi on se rend compte que les personnes sont identifiées, fichées et certaines expulsées, alors en nombre relativement marginal, mais tout de même, vers notamment des pays européens, dans le cadre de réadmission, par exemple, vers l'Italie, depuis ces centres de répit qui se sont développés de manière assez considérable. Également sur ce plan pour, entre guillemets, évacuer Calais. En somme, on est un peu sur une logique de contrôle et de privation de liberté à divers degrés qui est en train de s'organiser de façon très, très transversale, partout où les personnes étrangères sont hébergées quasiment, parce qu'on trouve aussi des pressions qui se sont accrues pour les demandeurs d'asile qui sont hébergés dans les CADA. On a un peu dans ce phénomène-là, on a une atteinte qui nous paraît très forte au caractère un peu inconditionnel de l'hébergement d'urgence, et donc des personnes étrangères qui vont avoir un statut à part dans le domaine de l'hébergement d'urgence, puisqu'ils vont pouvoir être soumis à des dispositifs particuliers, spécifiques, dont une partie des crédits sont tracés par le ministère de l'Intérieur, et avec l'intervention de la police, des préfectures, pour cette finalité d'expulsion. Ce qu'on peut-être aussi souligner dans ce plan général, et la manière dont il a été amené, c'est que c'est un plan qui procède essentiellement par circulaire et non pas par la loi. On peut, pour le souvenir, se rappeler qu'à un moment, le gouvernement a consulté des organisations et a complètement envisagé de mettre en place des centres semi-fermés, donc des centres d'hébergement où les personnes étrangères ayant, entre guillemets, vocation à être expulsées, seraient contrôlées par les pouvoirs publics, et où, éventuellement, une partie de leurs affaires serait consignée pour les empêcher de disparaître dans la nature. Le gouvernement a fait machine arrière après avoir un peu tâté le terrain, pensant que ce serait pas forcément bien admis. Et finalement, on voit revenir par la fenêtre et par voie circulaire, ce contrôle assez insidieux et sous diverses formes qui s'inscrit dans différents dispositifs d'hébergement d'urgence des personnes étrangères. Voilà, rapidement, en guise d'introduction, on pourra y revenir parce que cette forme de mainmise du ministère de l'Intérieur sur les questions de l'hébergement dans le projet de loi, on le retrouve sur d'autres aspects, sur la question des personnes malades étrangères, par exemple, tout comme on va retrouver dans ce projet de loi des dimensions très fortes de l'ordre de l'accroissement des sanctions, des modalités de contrôle et des reculs des droits des personnes étrangères visées par ce projet de loi. C'est ce que vont développer dans la foulée, donc d'abord pour commencer, Patrick Henriot, à qui je passe la parole, sur le thème de l'assignation à résidence, donc qui est vraiment une modalité qui vient s'inscrire complètement dans la question de cet hébergement policier sous contrôle qui émerge voilà, déjà, qui est déjà à l'œuvre sur le terrain.
Vous êtes toujours à l'écoute de RESF sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue, et rfpp.net pour nous suivre partout en streaming. C'était donc David Rohi de la CIMAD hein, qui introduisait la réunion publique de l'Observatoire de l'enfermement des étrangers, hein, plus particulièrement sur les aspects enfermement de l'OEE, du CZA, hein, du Code d'entrée et de séjour des étrangers et demandeurs d'asile. Je propose qu'on écoute quelques mesures de la résidence, hein, c'est Slimane Azem, et ensuite on continuera avec Patrick Henriot, qui est magistrat, membre du syndicat de la magistrature, et qui parlera plus particulièrement de l'assignation à résidence.
D'après ce qu'on nous annonce, ça va dans un bon sens. Faut pas prévoir à l'avance avant d'avoir la réponse. Avant d'avoir la réponse au sujet de la résidence. وغرم ذي ثمرتيك أصل أمور التمسلتيك كل سذلي كونفيرانس كل سذلي كونفيرانس بوري تدي تدي